Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième café scientifique de l'année. Et surtout, merci d'être venus si nombreux pour écouter le thème de ce soir, cohésion cantonale, fille de la révolution. Donc, il est bon d'ailleurs de voir une salle si remplie pour venir écouter et parler de cohésion cantonale dans une période particulièrement difficile où le simple terme de cohésion fait lever les yeux au ciel, hausser les épaules ou parfois suscite de grands agacements. Alors donc ce n'est pas un hasard si on va parler de cohésion cantonale aujourd'hui. L'équipe des cafés scientifiques n'avait pas prévu au moment de réfléchir à ce sujet que le canton de Neuchâtel allait se réveiller ce matin avec un budget repêché des eaux. L'ironie du calendrier, c'est qu'il y a exactement 170 ans, à 8 jours près, la principauté de Neuchâtel devenait une république. Elle n'avait pas fière allure au début, ses caisses étaient encore plus vides qu'aujourd'hui, mais cette révolution donnait l'exemple dans toute l'Europe, tandis que partout ailleurs s'abattait la répression contre le printemps des peuples. À Neuchâtel, l'élan et la générosité des idées nouvelles, qui venaient du haut, il faut bien le dire, et aussi des vallées, a fini par conquérir l'ensemble de notre canton, faisant de celui-ci un modèle d'ouverture vers le monde et de réussite, avec des hauts et des bas. Alors est-ce que l'histoire avec un grand H peut éclairer notre chemin, plutôt chahuté et caillouteux en ce moment? C'est une grande question à laquelle je vais laisser répondre nos invités de ce soir, et je vais laisser Stéphane Deveau, qui est le co-rédacteur en chef d'Arc Info, également l'animateur de cette soirée, nous présenter les invités et lancer ce débat que j'espère animé et à la fois très cordial. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous.
Merci. Merci Emmanuel Guérig et merci aux organisateurs de ces cafés scientifiques de nous permettre de débattre de ce thème à effectivement une semaine du 1er mars. Certains Neuchâtelois à cette occasion profiteront de leur semaine de relâche loin de leur canton, dans la neige des Alpes ou dans un sable peut-être même plus exotique et plus lointain, allez savoir. D'autres, comme des pèlerins, marcheront dans les pas des républicains de 1848 en partant à l'assaut du château et du pouvoir de l'époque. Et quelques-uns, comme vous ce soir et comme nous, s'interrogeront peut-être quelques minutes sur l'héritage de cet épisode historique en se demandant, comme nous ce soir, si la cohésion cantonale est une fille de la Révolution ou au contraire, comme la dite cohésion, Emmanuel Guérig l'a dit, a quand même quelques failles ces temps. Ils se demanderont si ce clivage, ou pour le dire moins abruptement, certaines différences de sensibilité et de perception des enjeux, trouvent leur origine au moment où Neuchâtel devient république en se débarrassant définitivement de la tutelle berlinoise. Alors ce soir, mesdames et messieurs, nous naviguerons un peu dans le temps, nous évoquerons forcément le passé, nous rappellerons certains faits et nous parcourrons les 170 ans qui nous séparent de 1848, mais pas que. Parce que nous allons tenter aussi, à notre modeste niveau, d'aborder la situation d'aujourd'hui et même de celle dont rêvent Neuchâtel et les Neuchâtelois pour demain. C'est pourquoi autour de moi nous se trouvent deux historiens, mais aussi deux représentants du monde politique neuchâtelois, actifs actuellement en politique et même pour l'un, sans doute un représentant du monde politique en devenir, puisqu'il est très jeune. Alors, je vous les présente rapidement, on ne va pas s'étendre sur le CV de chacun, mais c'est bien de savoir à qui vous avez affaire, pour autant que vous ne les connaissiez pas. Mais j'ai vu à certains regards ou à certaines salutations que beaucoup de gens se connaissent dans la salle, donc ça facilite les contacts. Alors, ces deux historiens, le plus proche de moi, Laurent Tissot, que vous connaissez évidemment comme professeur d'histoire contemporaine ici à l'Institut d'Histoire, donc à l'Université de Neuchâtel, depuis plus de 20 ans. Dont les champs de prédilection sont, vous le savez sans doute aussi, l'histoire de l'industrialisation, des transports ou encore du tourisme, toutes activités forcément liées au 19e siècle. Nous sommes donc parfaitement dans la cible. Et le 20e, évidemment, mais on commencera peut-être au 19e, on va remonter aux origines. Et même le 20e. À vos côtés, Olivier Meuvely, historien lui aussi, qui a fait le déplacement de Lausanne, il est chef de projet à l'État de Vaud, lui aussi très à l'aise dans ce 19e siècle, qui voit éclore les partis politiques, en particulier le Parti radical, et ça tombe bien, puisqu'Olivier Meuvely est sans doute le spécialiste du radicalisme et de l'histoire du radicalisme en Suisse. Johan Lebel-Calame, pour ceux qui lisent le quotidien cantonal, son parcours n'a plus de secret pour vous, puisque vous avez lu la page que nous lui consacrons aujourd'hui. C'est une pure coïncidence, je tiens à le dire, mais enfin voilà. C'est un regard très intéressant, puisque Joanne Lebel-Calame est née au Québec, mais qu'elle est établie dans le canton de Neuchâtel depuis 1980, d'abord à Beauvais, puis un hiver au Locle, puis depuis 1989, entre deux, à Travers, dans le Val de Travers. Donc, membre du Parti socialiste, elle a été conseillère communale, puis présidente de l'exécutif de Travers avant la fusion, dont elle a été une des actrices importantes, et elle est députée depuis une dizaine d'années. Et enfin, tout à droite, Jules Aubert. Avec un nom comme ça, vous dites que forcément qu'il s'intéresse au droit, parce qu'évidemment, quand on est le fils d'une juge et d'un procureur général, qu'on est aussi le petit-fils d'un constitutionnaliste réputé bien au-delà de nos frontières, on tombe presque automatiquement dans le droit. Donc c'est effectivement le cas, puisqu'il étudie actuellement en fac de droit, mais il touche aussi à la politique, puisqu'il est élu PLR au Conseil général de Neuchâtel, et surtout, m'a-t-il dit, passionné d'histoire. Donc là aussi, on a trouvé la bonne personne. Voilà, on va directement entrer dans le vif du sujet avec une précision quant à l'organisation de la soirée. Donc nous allons dans une première moitié nous interroger entre nous, si je peux dire ça comme ça, sur la thématique du jour. Donc nos quatre intervenants vont s'exprimer en lien avec leurs principaux centres d'intérêt. Mais surtout, dans une seconde partie, vous aurez, vous, la possibilité de les interpeller, de les interroger, voire de les contredire, c'est peut-être même très bien, sur votre vision à vous de la cohésion neuchâteloise. Alors, je crois qu'on va commencer aux origines, et on commence avec vous, Laurent Tissot, avec la question en titre, « Cohésion cantonale, fille de la Révolution ». Alors, doit-on voir dans ces événements de 1848 et dans ce qui a été construit par la suite les germes ou les prémices d'une forme de clivage entre les deux parties du canton de Neuchâtel, ou au contraire, on a créé une cohésion qui jusqu'alors n'existait pas.
Merci et bonsoir. Alors, M. Guérig a dit que le canton de Neuchâtel s'était réveillé avec un nouveau budget. Je dirais que l'université qui nous accueille s'est réveillée avec un mal de tête. J'espère que les aspirines sont pas trop nombreuses pour effacer quand même le dépit qui a gagné mes collègues. Ceci étant, alors à votre question, j'ai une réponse oui et non. Je pourrais m'arrêter là. Dans la mesure que c'est bien sûr que une révolution est toujours mue par des motifs qui visent à changer les choses. C'est le propre d'une révolution. Il y a certaines qui réussissent, certaines qui ne réussissent pas. Dans le canton de Neuchâtel, on dit que c'est une révolution qui a réussi, qui a permis l'émergence d'un canton, d'un territoire qui était divisé auparavant, on va refaire l'histoire jusqu'au médiéval, mais qui était divisé en seigneuries, en comtes, etc., etc. Mais cette révolution atteste de la prise de conscience chez les Neuchâtelois qu'il y avait deux défis. Le premier défi, c'était de se débarrasser, bien sûr, de l'ombrage prussien, qui était quand même assez lourd, quoique ici, on faisait quand même ce qu'on voulait, mais il y avait quand même la vision d'un territoire qui était lié à une puissance étrangère, et quand c'est un empire, eh bien, c'est quand même important. Le deuxième point, c'est quand même, bien sûr, l'émergence de la Suisse, au même moment, donc il y a la volonté de s'inscrire dans ce qui se passe ailleurs, et je pense qu'on y reviendra ce soir. On ne peut pas parler d'histoire de Neuchâtel sans parler d'histoire suisse, européenne et même mondiale. Ça fait pour moi un tout, mais c'est une question qu'on pourra relever. Et le troisième point, c'est, en quelque sorte, c'est de participer et de s'inscrire dans une ère de modernité qui se soulève et qui a déjà des prémices dès la fin du XVIIIe siècle. Mais le terme de modernité est un terme qui est utilisé, et Neuchâtel veut participer à ce train-là. Alors, bien sûr que M. Meuvely peut-être s'attachera plus à décrire les questions politiques. Moi, j'aimerais insister sur une question économique centrale, c'est-à-dire que le canton, à ce moment-là, s'inscrit aussi dans une trajectoire industrielle qui va lui donner sa tonalité, qui va lui donner sa teinte, sa touche, une spécificité dans l'espace suisse et européen. Et les Neuchâtelois, surtout du haut, alors bien sûr, sont conscient de cela, mais il ne faut pas oublier que l'horlogerie naît à Neuchâtel. Et je crois qu'il faut quand même rétablir une certaine vérité historique. Le haut, certes, a eu la mainmise sur cette activité, mais il y a des prémices évidentes qui sont ici à Neuchâtel, une industrie qui ensuite, pour différentes raisons, s'est exportée vers le haut. Donc cela veut dire qu'il faut peut-être déjà, en 1848, estomper cette vision qu'on a aujourd'hui exagérée, malheureusement, entre un haut industriel et un bas conservateur, bourgeois, aristocratique. C'est vrai, mais il y a au niveau économique des indices qui nous montrent que le bas n'était pas aussi méfiant envers l'industrialisation et que le haut avait aussi des touches aristocratiques. Donc la frontière entre haut et bas doit être nuancée et inscrite dans un contexte qui peut-être fait que les acteurs de l'époque n'ont pas forcément cette conscience qu'on a aujourd'hui, un peu malheureuse, d'un bas et d'un haut conflictuel. Le mot bas et haut, selon les recherches qu'a faites mon collègue Jean-Daniel Morero avec Cédric Duprat, les premières notations, on les voit au 18e, mais il y a une date, c'est 1827. Mais là, on a une distinction surtout géographique qui ne porte pas à conséquence au niveau politique. Alors ça va s'envenimer surtout à partir des années 1975 avec cette crise épouvantable qui a peut-être sapé en quelque sorte les fondements sur lesquels Neuchâtel s'était bâti, et crise peut-être que, en tout cas à Neuchâtel, partiellement, on n'a pas encore compris les impacts. Et je pense qu'il y a encore des blessures qui sont ouvertes, mais je pense qu'on pourra reparler de cette crise-là. Donc oui, un facteur de cohésion, oui, mais aussi un facteur de division, dès lors que le haut va prendre une trajectoire économique qui sera la sienne, source de prospérité, source de richesse, source d'enrichissement personnel et collectif et familial, et peut-être un bas qui prend une autre trajectoire et qui, à terme, peut-être va créer des tensions. Mais j'aimerais ajouter ceci. Si l'on regarde la Suisse entière, il y a un seul canton qui présente les mêmes spécificités que le canton de Neuchâtel. C'est-à-dire, c'est le canton du Tessin. Le canton du Tessin et le canton de Neuchâtel ont la particularité d'avoir deux capitales, deux villes fortes, Bellinzona et Lugano au Tessin, qui a entraîné des problèmes importants au niveau politique. Il y a un haut tessinois et un bas tessinois. Et l'autre canton, l'autre exemple, c'est le canton de Neuchâtel, avec deux grandes capitales, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Donc ça veut nous dire que d'avoir deux villes d'égale grandeur, ça crée des problèmes. Et bien sûr que Zurich, Bâle, Lausanne, Genève n'avaient pas ces problèmes, parce qu'il y avait une capitale. Et peut-être les relations avec l'arrière-pays sont différentes. Mais le fait d'avoir deux villes de même grandeur peuvent créer des problèmes d'identité et de rattachement à des localités qui prennent des trajectoires économiques différentes.
Merci pour ce premier portrait, on va dire, de cette cohésion ou cette absence de cohésion neuchâteloise. Je retiens effectivement l'aspect crise, on en reparlera. À quel moment est-ce que les tensions peuvent s'exacerber? Est-ce que c'est lié à des crises ou non? Vous y avez déjà répondu assez précisément. Et puis l'autre aspect, c'est cette caractéristique neuchâteloise avec deux agglomérations, deux villes de taille à peu près équivalente. Vous avez évoqué le Tessin. Quand on s'est contacté, Olivier Meuvely, vous avez d'emblée mis l'accent aussi sur le fait que des tensions à l'intérieur d'un territoire, comme un canton suisse au 19e et peut-être même encore après, ou voire avant, ça n'est pas propre à Neuchâtel. Vous m'aviez cité le Tessin, effectivement, il y a peut-être aussi d'autres cas. Pour autant, politiquement, est-ce qu'il y a des motifs politiques dans l'émergence du radicalisme qui va régner pratiquement sans contradicteur jusqu'à la fin du 19e ou en tout cas peut partager le pouvoir? Est-ce que ça peut expliquer effectivement des tensions qui se sont peut-être développées par la suite?
Bonsoir. J'ai un peu un rôle difficile. Je suis un peu l'extérieur. Je suis le candide de l'opération. Je représente un peu la Suisse au chevet du canton de Neuchâtel. Mais on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, cependant. Alors, sur ce côté des divisions, en effet, c'est le grand paradoxe. Parce que au XIXe siècle, l'image neuchâteloise, c'est homogène. Certes, il y a le haut et le bas, c'est deux villes, en effet, qui se font face, mais par rapport à l'ensemble de la Suisse, Neuchâtel est terriblement homogène, parce que toute la Suisse, tous les cantons suisses ou presque, sont divisés. Le cas neuchâtelois, tessinois, j'y reviendrai, mais le cas balois, ça finit en guerre, entre Bâle-Ville et Bâle-Campagne, pour des raisons politiques. La campagne se révolte contre la ville. Le Valais, où il n'y a pas de situation urbaine, mais on a aussi jusqu'à des guerres. En 1840, au début des 1840, au Trian, c'est-à-dire la guerre entre le Haut-Valais conservateur et le Bas-Valais, qui est la terre des libéraux radicaux. Les termes sont assez variables à cette époque-là, suivant les vallées ou presque. Mais on va à la guerre, on va au combat. Il y a vraiment une opposition frontale entre deux, où les conservateurs dominaient sur les libéraux, alors que leur population était inférieure. Et Schwitz, en Suisse centrale, les 1830 aussi, a failli être divisé. Les districts intérieurs, comme on les appelait, du canton de Schwitz, étaient suzerains, entre guillemets, le terme, des districts extérieurs, Einsiedeln notamment, du canton. Et il y avait un conflit qui a aussi failli aboutir à une scission qui a été refusée alors par la Diète fédérale. Et alors, le cas tessinois est paradigmatique. Là, c'est des coups d'État, c'est un enfer politique durant tout le XIXe siècle ou presque. Et c'est pour tenter de résoudre ces conflits violents, hein, de nouveau, où les coups de feu fusent dans plusieurs villes du canton, c'est pour essayer de régler ces questions-là que le Conseil fédéral, à l'époque, c'était des radicaux qui étaient tous sauf pour la proportionnelle, sauf pour le cas tessinois. Et ils ont imposé la proportionnelle également au niveau gouvernemental, avec des éclipses, va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment le seul moyen trouvé pour éviter que ces deux capitales, le Sotto et le Supracedere, se continuent à se faire une guerre. Là aussi, sur ces distinctions géographiques, s'accumulaient des distinctions politiques, radicaux, libéraux, conservateurs, catholiques, plus urbains, plus ruraux, face aux libéraux radicaux, évidemment, dans les villes à cette époque-là. Et même les autres cantons, c'est pas aussi clair. Alors, c'est vrai qu'on a des grandes villes à Zurich ou à Berne, mais même là, depuis l'Ancien Régime déjà, et ça se verra au 19e avec l'émergence des mouvements libéraux radicaux, où ces mouvements-là vont naître dans l'arrière-pays, les Hinterland. À Zurich, c'est à Oster, à Winterthur, à Küsnacht, que prend corps ces mouvements-là contre la ville, la Zurich patricienne, des Bürgermeister, des maîtres du canton sur le plan politique et économique. Et il y a des tensions qui existent, mais qui vont se résoudre au fil du temps. Berne, c'est la même chose, l'aristocratique Berne, qui domine l'Oberland, et puis le cas jurassien, évidemment, qu'on connaît encore pour d'autres raisons. Donc, il y a une foule de raisons qui expliquent ces tensions, mais le 19e siècle suisse est farci de tensions intracantonales qui visent des fois à des conflits, qui aboutissent parfois à des conflits violents, mais on les résout. Neuchâtel fait le contraire, c'est l'harmonie, en tout cas apparente, alors que tout le monde se déchire dans tous les cantons, et c'est au 20e siècle que Neuchâtel prend le relais, et alors, sans entrer dans des conflits violents, heureusement, mais pour alors, c'est des tensions internes qui vont se développer, et s'exacerber. Non, problématique, on pourra en reparler ultérieurement, mais alors on peut s'amuser un moment avec les libéraux radicaux d'un côté, mais en même temps le haut a cette culture ouvrière, anarchiste. Est-ce que ça formate des cultures politiques qui peuvent aller vers d'autres façons de voir le monde à un point qu'on arrive à des tensions extrêmes. Pour les radicaux, je vous dirais juste là-dessus, je me suis toujours étonné de voir que le radicalisme neuchâtelois n'était pas franchement en phase avec les radicalismes romands. En 1872-74, c'est les grands débats constitutionnels qui posent les bases, la Constitution, le référendum législatif, par exemple, c'est introduit à ce moment-là dans les institutions fédérales, et les radicaux genevois et vaudois sont clairement fédéralistes. Et ils se battent avec les catholiques conservateurs, eux aussi ultra-fédéralistes, contre les velléités de centraliser la Suisse fédérale qui se cherche un nouvel équilibre après 1848. Neuchâtel, non. Ils sont ultra-centralisateurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé de réponse. Est-ce que c'est par sorte de reconnaissance envers le radicalisme alémanique pour avoir accueilli le canton comme authentique canton radical en 1848? On peut discuter, je me réjouis d'entendre aussi votre avis. Idem pour la démocratie directe. Les radicaux sont en rapport assez, oscillant selon les cantons à l'égard de la démocratie directe. Les Vaudois sont à la pointe, les Genevois en autre chemin, c'est très variable. Mais les Neuchâtelois sont fermement contre. C'est du radicalisme pur et dur, à la bernoise. On n'aime pas ça. On va devoir leur tirer le référendum financier obligatoire parce que le débarrassement des chemins de fer était tel qu'il fait trouver une solution. Mais enfin, c'était sans enthousiasme de la part des responsables radicaux. Donc, c'est un radicalisme qui était centralisateur et peut-être qu'il aurait dû montrer une sensibilité fédéraliste plus grande, comprendre les nuances à l'intérieur, mais peut-être que c'est le seul moyen pour tenir entre le nord du canton, le haut du canton anarchisant et le sud aristocrate. C'est des hypothèses pures que je me réjouis qu'on pourra discuter.
Très bien, merci pour ce premier tour d'horizon. Alors on va peut-être un peu avancer dans le temps avec les deux autres intervenants, avec vous Joanne Lebel-Calame. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes établi dans le canton de Neuchâtel en 1980, après avoir traversé quand même un océan d'une certaine surface. Vous êtes dit quoi quand vous êtes arrivé? Le premier constat que vous avez posé, c'est « Ouh là là, quel beau clivage entre le haut et le bas, ça va promettre pour la suite ». Enfin, blague à part, est-ce que c'est des éléments qui vous sont très vite apparus qu'il y avait un problème de ce côté-là? Et puis quand vous vous êtes établi dans le Val de Travers, un peu à mi-chemin entre les deux, Est-ce que ça fait évoluer votre point de vue et vous êtes dit finalement il est fortement exagéré parce que nous qui sommes au milieu on joue pas le même jeu, ou bien à contrario est-ce que vous vous êtes dit c'est peut-être de ces régions-là intermédiaires qui sont moins sensibilisées à ces problématiques que pourrait venir la solution et puis que ça devrait servir d'exemple?
Plusieurs questions en une.
Ah oui, alors, mais c'est un peu mon défaut.
Oui, oui. Alors, la première impression, non. Alors, vraiment pas un fossé. Par contre, une diversité extraordinaire. Moi, je viens d'un pays où les distances sont assez grandes. Et puis, disons que pour aller chez mes grands-parents, il y avait 100 kilomètres de forêt à traverser. Enfin, puis toujours les mêmes arbres. Donc, arrivé ici, à Beauvais, au bord du lac. Et puis, ma belle-mère habitait le Val de Travers, montagne. Ensuite, si on monte encore un petit peu, il y a les fermes neuchâteloises, enfin, un paysage absolument extraordinaire. Là, je me disais, mais c'est incroyable. Et puis, la végétation, hein, c'est pas le même printemps au vallon, à la montagne, en bas. Pour moi, c'était un truc fantastique, quoi. On pouvait marcher et puis changer de pays. Par contre, en restant toujours dans le même pays. Bon, ça d'ailleurs, c'est pareil dans toute la Suisse, parce que dans toutes les villes, vous trouvez la Migros, la Coop. Enfin, fin de la parenthèse. Mais c'est plus la diversité culturelle, disons, parce qu'en plus, on traverse le lac, on arrive, l'architecture bernoise, c'est différent, on change de langue. Vraiment le paradis sur Terre de ce point de vue-là. Les différences, c'est apparu après. Mon intégration s'est faite à Beauvais, là, la société Jim, enfin, ça. Ensuite, j'ai fait un petit crochet par Neuchâtel avant d'aller vivre les montagnes. Bon, Neuchâtel, à l'époque, ça arrivait encore qu'il y avait 3 mois de brouillard. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Donc, on est monté à la montagne, au Locle. Mais évidemment, quand on travaille les deux dans le bas, c'était pas encore les transports de maintenant. En arrivant au Val de Travers, effectivement, là, un petit monde. Mais la première impression, alors ça, c'est vrai, ça avait été un choc. Pour moi, la notion de village industriel, je connaissais pas. Donc, des quartiers urbains, éparpillés, monter au chapeau de Napoléon, puis voir 8 communes d'un coup, ou 9. C'était absolument nouveau, mais je trouvais assez, assez fantastique, quoi, une belle diversité. En arrivant, en voyant comment ça fonctionnait, et puis en commençant à faire de la politique, puis en lisant les journaux, les 3 journaux, hein, Courrier du Val de Travers, l'Impartial, l'Express, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Les communes vont fusionner. Donc, effectivement, tu peux t'engager parce que dans 4 ans, ce sera fini. Il n'y a plus de problème. Il y aura une seule commune. Il n'y aura plus besoin de faire. Mais donc, le Val de Travers, pour avoir un point de vue un petit peu plus... Bon, l'exemple, c'est pas quelque chose que les gens ni de Neuchâtel ni de La Chaux-de-Fonds aiment beaucoup entendre, mais c'est vrai qu'on a tendance à être assez fiers de nous. Enfin, Monsieur Grandjean, qui est dans la salle, vient travailler au départ pour un programme de développement régional, mais on était tellement mal pris, dans le fond, avec la crise, le dépeuplement, qu'il fallait travailler pour remonter. Les communes étaient toutes petites, celles de travers avaient des difficultés financières. Enfin, quand vous recevez le chef du service des communes au moment de l'adoption du budget et qu'il vient vous dire il faut monter le coefficient fiscal de tant de points, sinon ça ne va pas, bah, on se dit, ouais, il faut qu'on trouve des solutions. Mais donc là, il y avait un motif de fusionner pour un petit peu régler nos petits problèmes. Mais en fait, c'était aussi, surtout, pour pouvoir avoir des projets. Parce que quand n'importe quelle décision, qu'elle soit publique ou bien de soutien à quelque chose de parapublic, ouais, comme le centre de ski de la Rebelle, ouais, prendre un exemple comme ça au hasard, il faut que 11 conseils communaux convainquent 11 conseils généraux. Vous n'avancez jamais. Alors, ben, on a fait la fusion. Ça n'a pas été facile, mais par contre, le gain politique a été assez extraordinaire parce qu'on a, à l'intérieur, on a pu mieux fonctionner. Ensuite, on est devenus presque des experts pour la fusion. Enfin, le conseil communal a été sollicité par différents d'autres régions qui voulaient fusionner. Il y a eu des bons rapports de l'IRER à l'époque. Et puis, on a oublié, bon, là, il y a des choses, je remonte au Moyen-Âge, mais quand même, au début de la fusion, il y en a qui disaient, ouais, mais on pourrait quand même faire Bas-Vallon, c'est-à-dire la seigneurie Travers, Rosières, Noiraigues, la mairie des Verrières, hein. Là, ça s'est presque fait, mais enfin, les bailleurs ont fusionné, le milieu, puis ça sera plus naturel, ce sera plus facile. Finalement, bon, on y est allé à 9 communes. Ensuite, au Val-de-Rue, ben, plutôt que la fusion par grappe qui avait été évoquée, eux, alors, ils ont essayé. Bon, 16, ça n'a pas joué, mais 15, du coup, ça a fonctionné. Et puis, ma dernière surprise, ça a été la Grande Béroche. Je dis, bon, ben là, vous allez avoir du boulot, il faut tous les règlements. Ben non, ils commencent, ils ont consulté, tous les règlements sont déjà faits. Donc, on a servi d'exemple quand même pour le reste, au niveau du fonctionnement des institutions. Il faut rester modeste, parce que tout ça est encore en train de se construire. Par contre, pour la cohésion cantonale actuelle et future, ben moi j'ai beaucoup d'espoir parce que ben il y a des jeunes politiciens, la relève est là, il y en a pas mal dans la salle aussi. Et puis surtout, il y a quand même des choses qui ont bougé. Puis les prochaines élections cantonales, ben le canton, il y a une seule circonscription. Donc ça, c'est quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la prochaine révolution et puis elle se prépare. Puis c'est vraiment porteur d'avenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.
Donc, si je résume, il y a effectivement un certain nombre d'éléments de cohésion qui se sont faits au Val-de-Travers, au Val-de-Rue, en différents endroits, par le biais des fusions de communes. Au niveau cantonal, bah, vous évoquez la circonscription unique. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, qui plaident en faveur d'une cohésion. Parce que finalement, vous rendez compte que c'est dans ce contexte-là que vous avez pu à nouveau développer de vrais projets, pas en particulier au Val-de-Travers. Donc, si on transposait ça à l'échelon cantonal, arriver à retrouver une vraie cohésion, c'est gage de projets concrets et prometteurs. Sinon, on reste à gérer des difficultés.
Effectivement, on peut lever le nez du guidon. Bon, ben déjà, on apprend à travailler ensemble. Et puis ça, c'est l'autre volet. En parallèle avec la fusion, il y avait aussi l'élaboration des contrats régions. Val-de-Travers a été la première région à le signer. Les autres ont toutes suivi. Et puis maintenant, il y a la nouvelle génération qui s'appelle projet d'agglomération. Enfin, il y a des ententes stratégiques où toutes les régions ont travaillé ensemble pour définir les spécificités à mettre en avant, en valeur pour chacune. Donc, tout ça est quand même fait ensemble par les exécutifs communaux et cantonaux. Et puis là, en tout cas, pour l'avenir, si ça continue dans cette tradition, dans cette voie d'ouverture et de coopération, ça se passe un petit peu en dehors de l'exposition publique, mais ça avance, je crois. Enfin, moi, je veux y croire.
Donc, on a un peu l'impression à vous entendre que ça relativise cette notion de clivage, si on peut dire ça comme ça, même si c'est peut-être moins visible et moins médiatisé.
Exactement. Disons, ce qui est plus, ben, on le dit toujours, hein, quand tout va bien, ça fait pas les nouvelles.
Je confirme. Jules Aubert, je l'ai pas dit, vous avez 23 ans. Donc, vous représentez la nouvelle génération qui va prendre ce canton en main. Enfin, on espère qu'une génération se profile pour reprendre ce canton en main. Vous avez envie de dire, moi, nous, les jeunes de cette génération, on considère que ça fait partie d'une espèce de folklore. La réalité que je vis, moi, c'est pas celle-là. Je ne ressens pas ce clivage dans ma vie quotidienne d'étudiant, de consommateur, de toutes sortes d'activités dans ce canton. Je le ressens pas. Ou bien, malgré tout, il y a quand même un petit quelque chose. Comment vous le vivez au quotidien?
Bonsoir. Écoutez, ce serait un peu exagéré de dire qu'on le ressent pas, puisqu'il y a quand même dans ce canton quelque chose de plus très latent au niveau de la cohésion cantonale. Mais je dirais plutôt que dans les discussions que j'ai avec la jeunesse, avec des amis, avec les gens avec qui on aborde ce sujet, j'ai le sentiment que cette jeunesse-là n'aborde pas, en tout cas, la question au bas comme étant une problématique, mais plutôt en parlant avec espoir d'une union des forces, d'une union des compétences. Et puis ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Mais effectivement, il faut encore réussir à transmettre ce message, essayer de pousser une population plus large avec nous, essayer de drainer les gens afin de redonner confiance en nos institutions, en une politique, en un canton qui a un peu perdu foi en tout ça. Et puis, je suis persuadé qu'à Neuchâtel, on a toutes les bonnes volontés pour ça. On a un canton qui est précurseur dans toutes les votations sur les ouvertures sur l'étranger, qui est un canton qui accueille. Il n'y a pas de raison que toute cette bonne volonté qu'on met sur l'étranger, on ne puisse pas la partager entre nous pour unir ce canton.
Ben, vous me tendez une perche, et puis je vais faire rebondir Laurent Tissot là-dessus. Je ne sais pas s'il faut le voir comme un paradoxe. Moi, j'avais l'impression de le voir comme un paradoxe. On parle de problèmes de cohabitation, enfin, ou de différences de sensibilité entre deux régions de ce canton. Donc, il est même présenté parfois, encore aujourd'hui, récemment, il y a eu des articles où on parlait de la grande déprime des Neuchâtelois. Puis à côté, si on regarde dans son histoire, même au-delà de 1848, il s'est souvent profilé, effectivement, comme un canton précurseur, que ce soit dans le domaine politique, pour l'ouverture aux étrangers. Ça a été un des premiers cantons à attribuer le droit de vote aux femmes, dans le domaine social, dans un tas de domaines. Il est souvent cité en exemple parce qu'il est parmi les premiers à avoir franchi des étapes qui ont ensuite été franchies par les autres régions de la Suisse, voire par la Confédération. Il me semble, vous allez me contredire, mais qu'une la première femme élue dans un parlement communal en Suisse, c'était une Neuchâteloise, et je crois même que c'était à peu près le cas pour le Grand Conseil, ou à peu de choses près. Alors, est-ce qu'il y a un paradoxe en juxtaposant ces deux constats, ou bien c'est juste deux évolutions différentes, l'un pouvant cohabiter avec l'autre?
Non. Je ne crois pas que ça peut cohabiter. Et pour moi, c'est le problème, là, que Neuchâtel traverse et connaît. Je vais prendre peut-être un autre exemple, un exemple économique. Si on voit, sur le long terme, l'évolution de l'histoire économique du canton, on constate une chose importante, c'est que cette prospérité économique est due pour beaucoup à des migrations. Je laisse de côté la migration huguenote, il y a beaucoup d'huguenots qui sont repartis. Mais si au XIXe siècle, on voit l'évolution, enfin la prospérité horlogère, elle est due, entre autres, pas seulement, à une migration juive, à une migration suisse-alémanique, à une migration allemande, à une migration française. Au XXe siècle, bon, première moitié du XXe siècle, c'est pénible parce qu'il y a des crises économiques et des guerres, mais les Trente Glorieuses, bien sûr que vous le savez, elles sont caractérisées ici par une immigration italienne, une immigration espagnole, une immigration polonaise, et ainsi de suite. Mais jusqu'en 1975, jusqu'à la crise de 1975, qui peut-être est trop souvent mise en évidence parce qu'elle cache d'autres bouleversements, il y avait un couplage entre le fait que ces gens travaillaient à Neuchâtel et habitaient à Neuchâtel. À partir de 1975, crise économique, mais un autre facteur intervient, c'est-à-dire qu'on voit une Suisse qui est, je dirais, sous un nouveau paradigme, c'est une Suisse qui permet aux Suisses de voyager, qui permet aux Suisses de découpler le lieu de travail au lieu de domicile. Je vais prendre mon exemple personnel, et j'en ai aucune honte. Il y a 22 ans que j'habite à Lausanne, il y a 22 ans que je travaille ici, que je profite de la création de richesses du canton de Neuchâtel, et je n'ai pas payé un sou d'impôt. Je n'ai pas payé un sou d'impôt. Il y a 50 ans, si j'avais été nommé à Neuchâtel, je serais venu habiter à Neuchâtel parce que j'avais pas le choix. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on manque de discernement, et pour moi, c'est quand même une question nationale. Le canton de Neuchâtel a raté la guerre de la mobilité, n'est pas entré, en quelque sorte, dans cette phase qui permettait à des gens de s'établir et de travailler à Neuchâtel. Donc, pour moi, la crise que traverse le canton de Neuchâtel, c'est une crise du fédéralisme. C'est-à-dire, je ne trouve pas normal que j'ai pu profiter de ce qui est créé à Neuchâtel et de faire profiter le canton de Vaud. Il y a 22 ans que je traverse, que je fais le voyage entre Lausanne et Neuchâtel. À Vaux-Marcu, je n'ai jamais vu l'ombre d'un douanier, de barbelés et de miradors. Donc, il faudrait savoir sur quelle base on se place. Et je trouve que les difficultés que traverse aujourd'hui le canton de Neuchâtel ne sont pas uniquement des problèmes intra-neuchâtelois. C'est un problème national. Il y a des cantons qui profitent et il y a des cantons qui sont perdants. Neuchâtel est un perdant, comme Genève, comme Bâle-Ville, comme Zurich, qui sont en quelque sorte créateurs de richesses. Et c'est pas étonnant si en 2018, Neuchâtel sera le deuxième canton qui aura le plus fort taux de croissance économique après Bâle-Ville. Donc là, il y a quand même un problème qui doit être posé. Et moi, j'invite les autorités neuchâteloises à poser le problème au niveau national. J'ai fait un petit calcul. Je crois que le déficit, enfin, le nombre de personnes qui vivent dans un canton étranger à Neuchâtel et qui travaillent à Neuchâtel, j'ai calculé qu'il y avait peut-être un déficit de 1000 personnes, ce qui est une évaluation très basse. Si on multiplie ces 1000 personnes par un taux moyen d'impôt de 50 000 francs, vous arrivez à 50 millions. Ce sont, alors, on va me dire, mais il y a une péréquation fédérale. Oui, j'ai été reprendre les statistiques. Franchement, c'est la rigolade quand on me dit que pour 2018, le canton de Vaud est classé dans les cantons à faibles ressources. Alors moi, je n'y comprends plus rien. Je constate qu'il y a une rubrique compensation des charges géotopographiques. Le canton de Neuchâtel a droit à peu près à 37 millions. C'est en tout cas en dessous d'une estimation de 50 millions qui est une estimation basse. Et moi, je suis sûr qu'il y a en tout cas 2000 personnes qui sont dans mon cas. Mais on multiplie par 50 000 francs d'impôts, on arrive à 100 millions d'impôts. Donc il faut que le canton réfléchisse avec d'autres à cette notion du fédéralisme qui n'est plus d'actualité. La Suisse a changé. Elle a changé parce qu'on a amélioré les offres de transport, que ce soit les offres routières, que les offres ferroviaires, qui permettent aux gens, comme moi, c'est pas que je n'aime pas Neuchâtel, j'aurais aimé habiter Neuchâtel, mais il y avait des considérations familiales, et j'ai réglé les problèmes autrement. Mais ce n'est pas normal qu'on vive encore sous des notions du fédéralisme qui sont celles du 19e siècle. La Suisse a changé, et la crise économique de 1975, qui a frappé durement le canton de Neuchâtel, s'est doublée d'une autre crise, c'est la crise de la mobilité. Alors là, pour des raisons dont on pourrait discuter, une révolution pour laquelle, en quelque sorte, Neuchâtel n'a pas réussi. C'est une révolution, c'est une guerre qu'elle a ratée. Alors, cohésion nationale, fille de la révolution, oui, pour 1848, mais non pour 1975, parce que la crise financière, elle résulte de ça, et bien sûr que la crise financière, elle fait ressortir ces tensions qui n'avaient peut-être pas lieu d'être auparavant, parce que le canton arrivait à arroser de façon substantielle tous les besoins du canton. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réformes qui doivent être faites au sein du canton. Mais c'est pas le seul problème. Et je trouve qu'aujourd'hui, on parle trop de Neuchâtel qui doit résoudre seul ses problèmes. Il n'arrivera pas.
Alors évidemment que votre intervention a fait réagir. En premier lieu, Jules Aubert, qui voulait compléter ou contredire. Je verrai ensuite Olivier Meuvelly. Alors, Jules Aubert.
Je profite que vous parlez de la mobilité pour dire qu'à Neuchâtel, la mobilité cristallise beaucoup de passions. Déjà, au lendemain de la Révolution, la République est mise à mal par la création des voies de chemin de fer qui provoque des heurts qui amènent une contre-révolution royaliste. On connaît ensuite ces problématiques qui font que le haut et le bas arrivent moins bien à communiquer, le transrun. J'ai seulement que c'est vrai que cette crise de la mobilité à Neuchâtel est un réel problème et que je crois vraiment à ce projet Mobilité 2030 en espérant vraiment que ce sera un grand plus pour notre canton dans la communication, dans le rapprochement des gens et puis de permettre vraiment que nos institutions évoluent grâce à cette proximité d'un réseau global dans notre canton.
Olivier Meuvely, il y a des aspects institutionnels là derrière aussi. Enfin, vous analysez ce qui vient d'être dit ?
Peut-être, mais je ne crois pas qu'on puisse incriminer le fédéralisme. Ce qui me dérange dans le discours de M. Tissot, c'est qu'il y a des problèmes à Neuchâtel, alors il faut changer le système pour tous les autres. Non, le fédéralisme concerne. Si on veut changer le fédéralisme, on ne peut pas changer le fédéralisme, à mon avis, pour sauver Neuchâtel. Je vais d'un canton qui a connu une décennie calamiteuse, c'était les années 90. Et c'est de cette calamiteuse décennie que les partis politiques, les forces politiques se sont reprises en main et ont construit d'autres bases à travers une constituante qui a vraiment servi de catalyseur pour un nouveau consensus, là j'y reviendrai, qui alors a été mis en œuvre par en gros la gauche et la droite. Pourquoi il y a eu cette calamiteuse décennie années 90 avec une crise, la Suisse globalement était en crise, mais Vaud alors a vraiment transcendé tous les problèmes de la Suisse de l'époque, c'était que le canton de Vaud n'avait pas bien géré ses ressources propres. C'était clair et net, c'était pas à cause des autres, ni à cause de Genève, ni à cause de Neuchâtel, ni à cause de Fribourg, ni à cause de Berne. C'était principalement le problème des Vaudois, et les Vaudois ont dû se mettre à table, à la table de discussion pour les résoudre eux-mêmes. Donc je crois pas que c'est en bouleversant les institutions globales de la Suisse qu'on arrivera à sauver le cas particulier de Neuchâtel. On voit que le problème le problème de la mobilité est en effet un problème vu qu'on n'arrive même pas à organiser la mobilité entre le haut et le bas. Donc c'est un problème qui est vraiment alors presque ancré dans le canton. Et ça m'en vient au deuxième point que je voulais soulever. Et peut-être que alors là les institutions politiques sont sollicitées. Neuchâtel a été précurseur dans nombre de sujets, ça a été dit, notamment dans celui de la construction d'un consensus, d'un système de consensus, droite, gauche, patronat, syndicat, qui était souvent un modèle de référence. Or, tous ces systèmes-là, il faut les entretenir. Peut-être que Neuchâtel s'est un peu endormi, assoupi sur un système qui avait l'air parfait, fonctionnant à merveille, sans voir qu'il s'encroûtait peut-être et qu'il n'aurait ils ne pouvaient plus manifester l'élasticité nécessaire pour réagir, pour retrouver d'autres équilibres en cas de crise. Et c'est peut-être les crises économiques qui sont succédées, qui ont mis à mal un système qu'on croyait versé dans le marbre, versé dans la perfection absolue. Et donc, à des élections vaudoises récemment, j'avais été interpellé, et juste après, par les médias romands, les médias surtout vaudois, mais aussi romands, sur le consensus à la vaudoise, qui est maintenant un point de référence. Et puis, après les élections, il y a eu quelques anicroches entre la gauche et la droite. On m'a dit, mais c'est la fin du consensus. Et moi, j'aurais répondu non. À mon avis, c'est peut-être le moyen de s'assurer que le consensus puisse durer, c'est que les forces politiques en présence réapprennent aussi à se battre, à défendre des options, des opinions, et à mener des combats politiques. Après, on discute. Si la discussion doit amortir et aseptiser la discussion politique et le combat, ça peut finir dans une situation de stagnation, et peut-être, mais là c'est vraiment de nouveau une hypothèse, que Neuchâtel s'est un peu enlisé dans cette stagnation sans être capable de relancer ce dialogue entre les forces politiques à un moment où justement l'économie n'arrive plus à drainer l'argent, comme disait M. Tissot, pour distribuer à tout le monde selon les besoins de chacun.
Partagez ce point de vue, Joanne Le Bel-Kalam, vous qui êtes active en politique, qui étiez encore au château il y a quelques heures,
oui.
que la classe politique a sa part dans la situation actuelle et puis qu'il faudrait retrouver un coup d'accélérateur.
Bon, on touche aux limites du pouvoir des autorités politiques. Bon, classe politique n'est pas une expression que je considère appropriée à la vie politique suisse, parce qu'on est beaucoup des miliciens, donc il n'y a justement pas une classe politique. Enfin, ça, c'est personnel. Mais je pense que si on retourne aux années 75, il y a quand même une évolution que j'ai vue depuis que je suis arrivée dans le canton. c'est la perte du pouvoir de décision économique. Moi, quand je suis arrivée ici, ben, à Serrières, ça sentait le chocolat. Donc, les entreprises locales où les patrons habitaient ici, toutes les décisions se prenaient ici, ben, finalement, ça a été racheté par des grands groupes, enfin, Kraft, Jacobs, Suchard, je sais plus où c'est parti. Pareil un peu dans le haut, les patrons horlogers, ben, ma foi, il y a eu des changements de génération, ça a changé. Neuchâtel a eu une politique de promotion économique qui a aidé alors à créer des emplois, qui après a eu un effet boomerang quand les règles ont changé au niveau fédéral pour la péréquation. Parce que évidemment, quand on exonère un certain temps les entreprises, si elles partent, à la limite, ça va encore, parce qu'il y a les gens qui ont payé les impôts tout ce temps-là. Mais si elles restent, qu'elles soient encore exonérées, puis qu'à Berne, on considère que c'est une ressource, et puis que la péréquation est calculée sur ces ressources fictives qu'on n'a pas encaissées, parce que c'était tout à fait conforme au droit fédéral, les régions LIM, qui avaient été étendues à l'ensemble du canton. Enfin, là, vraiment, il y a eu un gros souci, puis ça, c'est national. Enfin, les règles ont changé à Berne, le canton a perdu du pouvoir à Berne, mais disons que il y a vraiment une perte du pouvoir économique qui est difficile à combattre. Mais il y a quand même une dynamique maintenant, enfin, vraiment micro-city, disons, on réoriente un petit peu ce canton qui continue à avancer. Mais on entre peut-être aussi dans le vif du sujet, puis le fond du problème, parce que ce qu'on dit au niveau fédéral, ben, ça marche un peu aussi à l'intérieur du canton, où là, ben, les emplois et la population ne sont pas répartis nécessairement équitablement, pour la satisfaction de tout le monde, et puis qui ferait qu'il n'y aurait pas de mésentente. Les gens ont tendance à travailler quelque part, à habiter ailleurs, parce qu'il y a la vue sur les Alpes ou qu'il y a le lac. Donc ça, c'est un des soucis du Val de Travers, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Alors, si c'est des frontaliers, ben, il y a des ressources qui vont avec. Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est que dans le rapport sur la cohésion cantonale de 2013, il y a des statistiques à la fin, et puis c'est assez étonnant par rapport à l'actualité politique cantonale récente. Le revenu des frontaliers n'est même pas dans le tableau des recettes des communes. Il y a seulement un petit truc cantonal. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse pour dire que les choses évoluent tranquillement. Mais maintenant, c'est ça. Il y a moins d'argent quelque part, il y en a plus ailleurs, les impôts sont plus ou moins élevés. Là, il y a des petites chamailleries entre autorités politiques. Je ne sais pas trop la population, ce qu'elle en pense là, si elle suit, mais des fois, les débats au Grand Conseil, ben, c'est là que la géographie vient se superposer à l'opposition gauche-droite. Juste pour dire qu'on arrive de loin, mais que le temps, je voyais que M. Aubert disait qu'il faut 30 à 40 ans. Ben, il faut, finalement, ça fait un certain temps que ça dure, parce que dans les années 90, il n'y avait même pas un barème fiscal identique dans toutes les communes. Chacune faisait comme elle voulait. Maintenant, c'est le même partout, au moins. Après, le coefficient varie. Autrement dit, si vous êtes ouvrier ou employé dans une commune agricole, ben maintenant, vous payez la même chose, le même barème. Tout le monde en est à la même. Donc, mais l'aspect financier, ben, ça, c'est quand même un gros souci, puis une cause de difficulté pour la cohésion cantonale.
Ce que je dois interpréter de manière un peu, je dirais, pessimiste, ce que j'ai entendu dans les dernières interventions, et parce qu'on mettrait quelque part le doigt sur la limite de l'action politique par rapport à des grands courants financiers, économiques. Vous avez parlé de la disparition, de la perte des pouvoirs de décision. Vous auriez pu remonter au Vallon aussi à l'époque du biais, hein, où tout d'un coup, ces sources de richesse et d'emplois disparaissent et font d'une région prospère une région quasi sinistrée. Hein. Pour ceux qui ont vu le documentaire qui a été réalisé il y a quelque temps, c'est assez marquant. Est-ce que c'est ça, finalement? Comment le pouvoir politique, à tous les échelons communal, cantonal d'abord, mais peut-être aussi fédéral, puisque vous avez évoqué, Laurent Tissot, la crise du fédéralisme, comment est-ce qu'ils peuvent reprendre la main en se pensant au chevet du patient Neuchâtel, notamment? Mais il y en a peut-être d'autres qui présentent les mêmes pathologies. Je ne sais pas qui se lance. Jules Aubert?
Je vais tenter de répondre à cette question. Je crois que Neuchâtel, comme on l'a dit, est très sensible à l'économie mondiale, enfin internationale. Et puis, c'est un peu un paradoxe, c'est de voir que Neuchâtel crée des ressources, mais n'en a pas tellement, et puis elle est très dépendante de cette structure-là. Donc, je pense qu'il faut maintenant imaginer des réformes structurelles, des réformes de fond qui permettraient vraiment déjà à notre canton de supprimer des choses qu'on a à double, des choses qu'on a en trop. Pour et ça, c'est des pouvoirs politiques qu'on a dans notre canton et qui permettraient au fond de réutiliser cet argent à meilleur escient pour le mettre au bénéfice de toute la population neuchâteloise dans son ensemble, que ce soit au niveau culturel. On voit aujourd'hui que le Conseil d'État doit couper dans un certain nombre de prestations. Et puis, j'ai le sentiment que si on arrivait à s'entendre un peu mieux, justement, à trouver cette cohésion qui prend malheureusement du temps, eh bien, on permettrait de supprimer un certain nombre de choses qu'on a soit dans le haut, soit dans le bas, enfin, qu'on a maintenant dans le haut et dans le bas pour les mettre ou dans le haut ou dans le bas. Et ensuite, permettre à ces fonds de les redistribuer dans des choses qui permettraient de faire revenir un peu de d'enthousiasme dans ce canton, des gens, des contribuables, des hauts fonctionnaires, enfin des gens qui payent un peu plus d'impôts. Et puis en fait, j'ai le sentiment que c'est plus une spirale qu'on doit essayer d'emmancher. Et moi, je crois assez en notre Conseil d'État. En fait, je trouve qu'ils ont emmanché depuis quelques années quand même des réformes qui prennent du temps. Mais ça, c'est le système suisse qui veut ça. C'est que on a des institutions qui prennent plus de temps que dans un système plus centralisé, plus unitaire. Mais moi, je crois vraiment en la dynamique d'un canton, au fait qu'elle s'inverse. Mais je pense aussi qu'on doit pouvoir voir à plus long terme. Et puis j'ai sentiment qu'à Neuchâtel, on a aussi fait quelques erreurs, notamment dans les années de haute conjoncture. On peine à faire des réserves de politique conjoncturelle pour pallier des manques dans les périodes de basse conjoncture. Et puis des fois, on a envie de distribuer trop vite cet argent dans des prestations, aux contribuables en le distillant de différentes manières. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire quand même au niveau cantonal. Et moi, je crois assez en notre politique et puis en l'inversement de cette dynamique actuelle.
Alors je vous aurais bien relancé sur cette question-là, parce qu'on voit bien que dans une histoire récente que cette volonté de réforme sur certains dossiers se heurte à d'autres sensibilités et à d'autres visions. Donc sur certains dossiers, on a effectivement de la peine à avancer. Alors, je pense que la salle va réagir à ce genre de choses, parce que on me fait signe que le temps passe effectivement, et le temps à Neuchâtel, c'est une denrée précieuse. Donc je vais ouvrir le débat maintenant à l'entier de la salle. Vous gardez le micro, on verra qui est interpellé. Alors, j'imagine qu'il y aura plein de questions ou plein de remarques qui vont venir. Il y a déjà des mains qui se lèvent derrière. Alors, je crois que c'est Monsieur Cozandet qui a levé la main en premier, donc prime à la rapidité. Oui, si vous adressez votre question à quelqu'un en particulier, dites-le assez rapidement.
Non, pas du tout. J'ai deux tout petites remarques préliminaires. Premièrement, je m'étonne quand même qu'il n'y ait pas de représentants des montagnes de Château dans ce débat. Deuxièmement, j'aimerais dire que je suis en grande partie d'accord avec M. Tissot. Ceci dit, je pense qu'il n'y a pas de gêne différente entre les habitants du haut et du bas. Je le dis d'autant plus volontiers que je suis du haut. Ceci dit, je pense que le gros problème de la cohésion cantonale, qu'il n'y en aura jamais, tant qu'il y aura des disparités régionales pareilles. J'ai sous les yeux la Constitution neuchâteloise. L'article 5 dit que l'État doit veiller à l'équilibre parmi les régions. En 84, j'avais demandé une étude qui a été faite par l'Université de Neuchâtel. Le Haut donnait 46 millions de plus qu'il recevait de l'État. Cette étude a été réactualisée il y a 6 ans. C'est plus 46 millions, c'est 60 millions. Voilà la réalité. Les gens du haut sont pas contre ceux du bas. Il n'y a pas une différence de gêne, mais il y a une différence énorme. Je rappelle simplement que 80% des investissements des 20 dernières années ont été faits sur le littoral.
Alors, sur cette question des investissements, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, comme ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt une remarque. Je propose qu'on enchaîne. Alors, il y avait une question. Alors, puisque le micro est là-bas, passons d'abord voisin de M. Cozandet, M. Spolettini, puis après on viendra au premier rang ici.
Oui, merci. J'ai une question surtout du point de vue histoire à nos deux historiens, M. Tissot et M. Meuvelet. 1815, le canton de Neuchâtel rentre dans la Confédération. Les différentes classes sociales, déjà, l'aristocratie, comment l'aristocratie neuchâteloise, l'oligarchie qui a le pouvoir, rentre dans la Confédération, avec quelle motivation, quelle résistance, quels espoirs, en sachant qu'elle cherche une alliance à l'étranger. Et cette, donc avec la principauté de Prusse. En 1848, il y a la Révolution. On sait que c'est une révolution républicaine, un peuple, une nation. C'est la Révolution française qui amène ce grand espoir de donner à chaque peuple les libertés. C'est le seul endroit où elle gagne en Europe. Et il y a une contre-révolution en 1856. Est-ce que l'origine de cet antagonisme n'est pas toujours, encore et toujours, entre les mentalités forgées par l'aristocratie de l'Ancien Régime et les radicaux, les républicains, les patrons libéraux, mais qui, comme vous l'avez dit, le radicalisme neuchâtelois est très centralisateur, hein, il veut organiser un État nouveau. Est-ce que on peut répondre à cette question-là?
Alors, 1815. Ces messieurs se regardent.
Non, mais il faut 800 pages. Parce que c'est une question qui est très complexe. Elle ne touche pas seulement Neuchâtel. Comment dire, des historiens prétendent très sérieux, ils prétendent que la Révolution française n'a pas du tout marqué la fin de l'Ancien Régime. La fin de l'Ancien Régime, on peut le dater en 1914. C'est-à-dire que l'aristocratie n'a pas été vaincue par les révolutions républicaines démocratiques. Les aristocrates sont toujours présents dans les lieux de pouvoir. Ils sont un peu chassés, mis de côté, c'est vrai, ils créent le sport, donc ils ont des lieux d'investissement nouveaux, mais il ne faut pas croire qu'avec ces révolutions du 19e siècle, on a tout d'un coup un effacement de l'aristocratie. Ça veut dire que l'aristocratie, elle garde son influence. Elle garde son influence, bien sûr, ici, à Neuchâtel, mais je ne dirais pas qu'il y a une gêne aristocrate neuchâteloise. L'aristocratique, c'est cosmopolite. On se connaît. On voyage, les deux Pourtalès, les deux Montmolin, ils sont en Amérique, les deux Purie, ils sont au Brésil. Donc, ils couvrent, c'est eux peut-être qui font la deuxième mondialisation. Donc, bien sûr qu'il y a une résistance parce qu'ils voient ce qu'ils ont à perdre avec ces révolutions républicaines. Mais ça dure jusqu'en 1914, et 1914, pour moi, c'est la fin, effectivement, de l'emprise aristocratique parce que tous les empires perdent. Les Allemands, les Autrichiens, enfin bref, on peut faire une longue liste. Donc là, bien sûr que ça se ressent à Neuchâtel parce qu'il y a beaucoup de familles patriciennes, aristocrates, qui ont fait leur beurre dans des commerces plus ou moins admissibles. Mais tout le 19e siècle, ils restent présents et bien sûr qu'ils freinent l'évolution. Mais je comprends que des gens qui ont tout à perdre freine, parce que je vois pas pourquoi ils seraient des philanthropes. Alors, on peut leur reprocher une certaine avarice et une certaine méconnaissance de l'évolution globale au niveau philosophique, au niveau éthique, certes, mais au niveau économique, ils vivent de leur rente, mais ils investissent aussi. Et là, peut-être, on a une fausse image de l'aristocratie qui resterait en arrière de l'évolution économique. Non, les aristocrates investissent et ils sont présents dans le monde économique.
Juste de petits compléments par rapport à 1815, Neuchâtel entre en effet la Confédération, mais Neuchâtel a depuis très longtemps des liens avec la Confédération, notamment avec les Bernois. Ils sont alliés depuis, je n'ai pas les dates en tête, mais depuis très très longtemps. Donc Neuchâtel est déjà arrimé au corps helvétique, comme on disait sous l'Ancien Régime, et la Suisse des 13 cantons, mais ces 13 cantons, c'était un noyau. Il y avait des alliances, Saint-Gall, qui sera canton seulement en 1798, par partiellement, le Toggenbourg, des pays sujets. Donc le corps helvétique est très complexe, très disparate. Et Neuchâtel, c'est un territoire allié, et qui avait, c'est avec cette double allégeance, la Prusse depuis le 18e, et la Confédération par ses alliances. Donc voilà, le lien fédéral était établi, et c'est clair que par la suite, c'était important pour les deux Châtelois de consolider ces liens avec la Confédération pour les distendre en parallèle avec la Prusse malgré tout. Et puis par rapport à la France, justement, je parlais de ce centralisme radical, c'est assez intéressant de voir les sources de formation des leaders radicaux du 19e, alémanique ou roman, pour rester en Suisse romande, ça déteint quelque part sur les institutions. Les chefs radicaux de Rueil, de Canton de Vaud, ils sont formés en Allemagne. C'est les Hégéliens. En France, pour Neuchâtel, avec Piaget, et Genève, avec Fazi, ils sont formés en France. Donc ils transposent dans les institutions qu'ils prennent en main, véritablement, entre 1847, 46 et 48, et ils ont une culture française. Tant Piaget que Fazi ont vécu 1830 en France. Et c'est après qu'ils viennent dans leur canton d'origine, où ils se lancent en politique et où ils vont façonner les États modernes de Neuchâtel, de Genève. Et c'est vrai que ce serait intéressant des fois à creuser ces influences biographiques sur après leur lecture institutionnelle. Drouet, ben, c'est hégélien, donc c'est un autre État que l'État français qui entre en Suisse à travers ces personnages. Alors, c'est une piste aussi qui peut expliquer des fois certains mécanismes qui peuvent aussi montrer leur faiblesse par la suite.
Comme vous l'avez dit, vous avez chacun 800 pages. Mais on en reparle dans quelques mois peut-être, voire quelques années. Jules Aubert, encore sur cette question-là. Puis ensuite,
je veux juste apporter un petit point. Monsieur Tissot, vous évoquiez qu'en France, l'aristocratie conserve beaucoup de pouvoir, en tout cas dans les rôles politiques. On observe vraiment l'inverse à Neuchâtel, en tout cas au niveau du gouvernement, où plus aucune famille aristocratique ne siège au Conseil d'État jusqu'en 1941. Et depuis... Léo Dupaquier, qui a fait cette législature, on n'a plus jamais eu de nouveau d'aristocrate. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à Neuchâtel, en tout cas, le gouvernement a vraiment été abandonné par les familles aristocratiques. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elles se présentaient plus, parce qu'elles dédaignaient la République, ou si le peuple ne leur faisait plus confiance. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir ça. Et peut-être que les prochains de Montmollin au Conseil d'État sont dans cette salle. Hein.
On a encore des thèmes en vue, là, apparemment. Alors,
bonsoir. J'aurais quelques remarques à formuler sur un certain nombre de sujets. D'abord, on a parlé de la composition de la tribune. Bon, on a dit seulement les Neuchâtelois bas du canton. J'ajouterais qu'il y a un autre critère que je trouve discriminant, c'est que les deux représentants de forces politiques appartiennent tous les deux à des partis gouvernementaux, comme si les partis non-gouvernementaux ne pesaient de rien dans ce canton. Pour moi, c'est un problème. Donc, je vais essayer effectivement, comme je suis membre d'un parti non-gouvernemental, je vais essayer effectivement de présenter un point de vue différent sur certains sujets. D'abord, sur effectivement les différences régionales. Si on analyse dans l'histoire neuchâteloise, les 40 ans qui ont mené des premiers soubresauts dus à la Grande Révolution française jusqu'à la Révolution de 1848, on s'aperçoit, vous regardez dans les montagnes neuchâteloises, le Locle et la Chaux-de-Fonds ont été assez facilement conquis par les idées républicaines parce que, notamment, ils étaient sur les lieux de circulation des marchandises et aussi des idées. Vous regardez la vallée des ponts de la Seine, eh bien, ça a été un des bastions les plus fervents, les plus acharnés de la contre-révolution royaliste. En 1856, c'est les gens de la Brévine et de la Seine qui sont venus prendre le Locle avec le colonel Charles-Frédéric de Pourceil-Steiger pour rétablir la monarchie. Ils y sont entrés d'ailleurs en disant « Vive le roi, abat les chemins de fer, abat l'hôtel des postes qui vient juste d'être construit ». Bon, donc, il y a des réalités, ces différences régionales, qui se traduisent d'ailleurs aussi sur le plan politique, quand vous regardez les résultats électoraux, il y a des choses qui ont perduré. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on parle beaucoup de cohésion cantonale, et puis je pense évidemment, c'est clair que les incidences des crises économiques, elles n'ont pas été les mêmes dans toutes les régions du canton. Ensuite, évidemment, il y a des politiques qui ont été menées, notamment en matière de fiscalité, à l'égard desquelles j'ai un regard extrêmement critique, qui ont eu des conséquences, notamment sur le niveau des recettes fiscales. Alors, effectivement, ce qu'il y a, c'est que quand il y a moins, effectivement, la tentation la tentation de couper est forte, et comme disait Oscar Wilde, le meilleur moyen de ne plus être soumis à la tentation, c'est d'y céder. Bon, le problème, alors il y a un certain nombre de dossiers, de décisions qui ont été prises, qui ont effectivement contribué à renforcer ce qui peut apparaître comme des antagonismes régionaux, et puis qu'on se hâte de décréter comme fruit de problèmes psychologiques. Les gens des montagnes avaient des problèmes psychologiques par rapport à l'hôpital. Merci Madame Pauline de Vosbelay, présidente toujours en exercice du conseil d'administration de HNE. Moi, je pense que, évidemment, je suis partisan de la cohésion cantonale, mais ça veut dire que pour qu'il y ait cohésion, il faut effectivement qu'une partie de la population n'ait pas l'impression, et plus que l'impression, d'être roulée par les décisions politiques qui sont prises. Je dirais que pour éviter les brins régionales dans le mauvais sens du terme, il aurait fallu commencer par faire des politiques, prendre des décisions qui ne les suscitent pas. Et moi, je vais terminer juste sur cet aspect, la circonscription unique, moyen de renforcer la cohésion cantonale. Franchement, laissez-moi rire. Vous croyez que c'est simplement par une astuce institutionnelle qu'on va résoudre les problèmes de fond? En 1958, un réfugié politique français nommé Cantagrel avait rédigé une brochure très intéressante que j'ai lue, pour à la destination de l'Assemblée constituante du canton de Châtel. Il proposait la circonscription unique, mais disons la proportionnelle intégrale, alors que pendant des décennies, nous avons eu droit d'abord à un système majoritaire et ensuite à un régime de proportionnel agrémenté d'un corps antidémocratique, d'abord de 15, puis de 10%. Maintenant, il a été baissé à 3%. Alors, ce qu'il y a, c'est que, je vous dis, c'est pas par un truc institutionnel décrété une circonscription unique qu'on va résoudre ces problèmes. Parce que, je vais vous dire, le fond de ma pensée, ça va peut-être faire se hérisser les cheveux de certains ou de certaines dans cette salle, mais en tout cas, le premier projet de circonscription unique, pour moi, c'était une combine du Conseil d'État pour sortir du Grand Conseil ceux qui considéraient comme des contestataires, des gens gênants, pour dire le mot plus trivialement, des emmerdeurs.
Vous pouvez le garder, le micro. Alors, artifice, ou au contraire, vous l'avez plutôt présenté, Joanne Lebel-Calame, cette circonscription unique, comme un outil de cohésion. Donc, visiblement, on ne va pas vous réconcilier ce soir avec Hans-Peter Renck. Mais est-ce que c'est finalement, si on veut aller un peu plus loin, il faut capitaliser là-dessus et il faut travailler encore davantage, non?
Alors, il faut mieux communiquer ce que c'est. Bon, déjà, c'est un grand défi, ça c'est sûr, mais ça va augmenter les droits politiques, en tout cas de la population du Val de Travers, qui pour l'instant élit 8 députés, qui aura le choix, qui pourra en élire 100, parce que finalement, chaque citoyen de Châtelois aura du boulot, parce que ce sera une liste de 100 noms qu'il devra remplir. Par contre, alors, où je m'inscris alors en faux sur les affirmations de M. Renck, c'est qu'au contraire, ça va faire plus de place aux petits partis. Je dirais que le Val de Travers, actuellement, est privé de l'apport politique des popistes. On a un conseiller général absolument brillant qui pose plein de questions, qui est très actif, etc., qui a absolument aucune chance dans le système actuel d'arriver au Grand Conseil. Puis c'est vraiment dommage, c'est une perte pour la République. Bon, cette fois-ci, les Verts ont pu entrer. Il y a le jeu des alliances qui, jusqu'à présent, avait profité aux socialistes, qui maintenant, il y a un siège vert, tant mieux, quoi. Mais, disons, l'abaissement du quorum, enfin, il y a vraiment eu. Heureusement, il n'y a pas que le Conseil d'État qui prend les décisions, c'est le Grand Conseil qui vote les lois. Puis il y a une commission du Grand Conseil qui a travaillé à la réforme des institutions, qui n'est pas finie, c'était une première étape. Parce que la suivante, ce sera aussi la question assez épineuse du cumul des mandats entre les exécutifs et puis le Grand Conseil. Donc moi, j'y crois, pas à cause des économies passées de 115 à 100, mais ça, c'est un chiffre rond, ça permet un calcul symbolique. Ce matin, par contre, il y a une idée assez intéressante qui a été... puis là, je suis obligée de faire la petite digression pour en parler. Une idée qui avait été déposée par un député socialiste, qui est dans la salle d'ailleurs, qui l'a défendu bruyamment, d'avoir deux listes, tant qu'à faire. On change le système. Provisoirement, on élit 50 femmes d'un côté, 50 hommes de l'autre. Donc, comme ça, il y aura des femmes de tous les partis qui seront représentées. On ne demandera pas de le faire pour les panels de l'UNI, mais voilà. mais pour dire que quand même, il y a des choses qui sont en train de changer. Et puis au contraire, je pense que les petits partis, ben, qui sont des, qui représentent la population, puis qui doivent faire entendre leur voix, auront plus de chances de le faire avec la circonscription unique que sans.
Et je vais me faire un peu à mon tour provocateur. Comment peut-on présenter ça à la population comme une réelle avancée quand cette population dit mais les problèmes ils sont de nature fiscale, de nature économique, et c'est des pouvoirs publics et des communes qui manquent de ressources pour développer des projets, et puis vous leur répondez circonscription unique. Je me fais un peu plus bête que je ne suis, encore que. Mais comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux et amener ça comme un élément de réponse concret à ces préoccupations-là qui touchent peut-être plus au porte-monnaie des institutions et partant des gens? Alors, ben, comme c'est Jules Aubert qui a le micro, il va peut-être répondre à votre place. Mais...
Enfin, je veux pas monopoliser la parole. Mais...
Non, allez-y.
Mais en fait, ce que je considère aussi, c'est que cette réforme institutionnelle sur le court terme aura peu d'influence. Mais j'ai le sentiment que ça permet quand même sur le moyen et long terme de pousser les gens à voter aussi pour des gens d'autres régions. Ça permet de sortir des dynamiques de guerre de clochers, puisque maintenant on devra convaincre des gens des autres régions du canton. Donc ça, c'est quand même des choses qui peuvent aussi redynamiser notre canton sur le d'un point de vue fiscal, puisque on sera obligé de convaincre au-delà de notre district. Moi, je crois peu à la circonscription unique sur le court terme, mais j'y crois beaucoup plus sur l'avancée des mentalités, et puis sur un moyen ou long terme, je crois vraiment que ça pourra avoir une influence sur notre canton.
Alors, juste encore un élément de réponse de votre part, puis ensuite on repart dans la salle parce qu'il y a sans doute il y a encore d'autres questions. Alors,
un petit complément de réponse. J'ai oublié quelque chose d'important quand même, c'est qu'il y a une règle de représentation. Enfin, chaque région aura une garantie d'un certain nombre de représentants. Puis là, je vais faire Val de Travers exemplaire. Au moment de la fusion, il y avait une règle comme quoi chaque ancienne commune avait droit à un représentant. Puis s'il n'y avait pas, ben, il y avait une règle de remplacer. Puis il n'y a jamais eu besoin d'activer cette règle. Mais finalement, ça dépend si les gens s'engagent en politique. C'est comme ça qu'ils peuvent être élus. Et puis ça a joué au niveau du Val de Travers. Je ne vois pas pourquoi ça ne jouerait pas au niveau du canton de Neuchâtel.
OK. Alors, on repart dans la salle.
Oui, je voulais apporter quelques précisions concernant les progrès qu'on a faits dans le canton de Neuchâtel ces dernières années. Dans le sens que, vers la fin des années 90, on a lancé un projet extrêmement intéressant d'agglomération et qui est relancé maintenant d'une façon nouvelle. Le premier projet, c'était un canton, une vision, qui s'inscrit selon cette grande transformation de gestion des territoires et des organisations, des structures, pour éliminer effectivement certains doublons. Ça se fait dans toute l'Europe. En Suisse, il a été encouragé par... Le secrétariat d'État, le SECO et le département de la gestion du territoire. C'était un grand projet porté par le ministre Bernard Sogel. Malheureusement, il devait aboutir effectivement à faire du canton de Neuchâtel, à le faire entrer dans une nouvelle modernité, notamment de la mobilité. Malheureusement, c'était une crise aussi institutionnelle au niveau du Conseil d'État à ce moment-là, et il a capoté suite au refus du Transrun. Il est relancé maintenant avec un nouveau projet qui est un canton, un espace. Moi, je ne peux que saluer de nouveau cette politique de modernisation du pays en tenant compte des particularités. Je pense que un canton, une vision était extrêmement précis, extrêmement plus adéquat et mieux défini de ce qu'on a fait pour le moment dans un canton, un espace, dont fait partie d'ailleurs le projet de circonscription unique. Donc, effectivement, on va dans un sens d'une modernisation nouvelle, mais là, il y a des divergences de modèles de gestion du pouvoir et d'organisation dans tous les partis du canton, et notamment aussi dans le Parti socialiste. Moi, j'étais un de ceux du Parti socialiste qui sont contre la circonscription unique et qui veut définir un canton, un espace en tenant compte des particularités de certaines particularités, de potentialiser les qualités tout en mettant de côté les faiblesses. Et c'est la grande difficulté que vous avez rappelée au début. Le canton de Neuchâtel a deux grands centres urbains et de les faire travailler en synergie, c'est très difficile. Donc, mais le modèle de gestion est un défi pour tous les pays européens et le modèle de gestion de la crise des partis politiques, elle s'inscrit aussi dans ce problème de gestion du pouvoir politique. Et tous les partis de gauche, je le rappelle, sont en crise. Le Parti socialiste italien a disparu. Le Parti socialiste français a disparu. J'aimerais pas que le Parti socialiste suisse disparaisse, mais j'ai bien peur que dans cette problématique de la gestion du pouvoir, en cours de grand danger, pas seulement le Parti socialiste, mais un petit peu tous les partis.
Alors, Laurent Tissot va apporter un commentaire à ce que vous venez de dire, Monsieur Spoletini.
Mais je suis absolument d'accord avec vous qu'il y a un problème de gouvernance. Mais il faut quand même voir que, et là, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une perte sèche au niveau des revenus que pourraient apporter des grandes entreprises dans le canton de Châtel, mais ailleurs aussi. Et pour moi, je reviens sur ma question du fédéralisme, mais je réaffirme mon désaccord avec Monsieur Meuvli. Nous ne pouvons plus vivre en Suisse avec tant d'inégalités cantonales. C'est pas possible de voir des cantons comme Zug, comme Schwyz, qui profitent du travail des autres. Et si on remet pas en cause cela, eh bien, on ira toujours dans des impasses. Je voudrais dire quand même que la grande révolution de 1848 qui était faite par les radicaux, c'est une révolution du fédéralisme. C'était le premier point qu'on a mis en avant. C'est comment concevoir des relations entre cantons qui étaient très distendues à l'époque pour différentes raisons. Comment est-ce qu'on pouvait vivre ensemble en Suisse? Et la notion de fédéralisme a été mise en avant. Pour moi, je réaffirme que cette notion-là n'est plus applicable aujourd'hui parce que la Suisse a changé, l'Europe a changé, les expatriés voyagent dans toutes les sens possibles et dans cette configuration-là, Neuchâtel est le grand battu. Comme les Genève, comme les Bâle, et je suis sûr que si on ne s'attaque pas au niveau fédéral à ce problème, on va au-devant de graves difficultés institutionnelles, économiques et sociales.
Mais pour autant, ça doit se faire, ça ne dispense pas Neuchâtel de faire son propre ménage.
Si bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a deux travaux, deux chantiers là à gérer. Bien sûr que non.
Alors, d'autres questions, d'autres remarques? Alors, on va vous tendre le micro pour qu'on vous entende bien, Monsieur de Tribolet.
Merci beaucoup. Je vous remercie tous, surtout Madame Lebel. Son point de vue canadien est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup apprécié et j'aimerais donner une réponse précise avec Monsieur Meuvli. Le pouvoir royaliste à Neuchâtel sous l'Ancien Régime, c'était la Prusse des Lumières, modernisée, centralisée. Elle n'avait rien à faire de ses spécificités locales. Et c'est mon ancien patron, Monsieur Courvoisier, lointain descendant de Frédéric Courvoisier, qui m'a dit un jour dans une lettre de Jules Calame Collin, du début du XXe siècle, le premier conseiller d'État libéral, qui était du Locle, et qui énumérait les républicains des montagnes, il y avait les Girard Perregaux, des tas de familles, et il faisait la remarque que certains royalistes étaient devenus radicaux. Et ça m'étonnerait pas, hein. Comment dire, un souvenir d'un pouvoir rationnel, parce que c'était ça, la Prusse. Non, je ne demande pas d'approbation, mais il a ajouté ça. Merci beaucoup.
Merci pour ce complément. Alors, nous sommes encore dans les temps des questions et des remarques. On a entendu certaines personnes, d'autres pas. Alors, Emmanuel Guéric, vous qui êtes debout, vous voyez plus de mains se lever que moi.
Excusez-moi. Pardon.
Alors, comme le micro se déplace, quelqu'un l'a demandé. Bon. Voilà, nous vous écoutons.
Bon, je dois être un des seuls jeunes, bon, dans cette salle. Mais bon, déjà, deux choses. Bon, la première chose, c'est l'avis des jeunes de manière générale, concernant, on va dire, la cohésion cantonale, qui est assez, on va dire, je m'en foutisme, réellement. Non, mais bon, là, c'est pas mon avis personnel, mais ce serait comme précédemment dit, on va dire que les jeunes, bien sûr, il y a un mouvement, on va dire, plutôt optimiste, mais aussi ne s'attache pas vraiment au problème parce que d'autres choses bien plus personnelles ou je ne sais pas quoi. Et ce qui fait que là, qu'on a parlé de nombreux systèmes politiques, économiques, etc., que les jeunes ne connaissent pas et ne vont pas tenter de résoudre. Et la situation, on va dire, va être réglée, entre guillemets, par les générations les plus âgées. Ça, c'est, on va dire, un problème assez... c'est pas un problème, disons ça comme ça, mais on va dire... J'ai l'impression que les jeunes, on va dire, sont en recul. Bon, bien sûr, il y a des jeunes au niveau politique, mais pas au niveau, non politique, je sais pas comment dire ça, mais et en soi, je veux dire, c'est plus une manque. Bon, après ça, c'est mon avis, mais c'est plutôt une manque de motivation, de renouveler, on va dire, le canton. Là, en fait, parce que c'est à mon avis, ce serait plus une manque de connaissance au niveau des problèmes cantonaux, comme vous avez dit, fédéral et voire même international, en fait. Un peu comme si ça nous dépassait, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est...
Donc voilà. C'est plutôt un constat que vous posez.
Un constat, voilà.
Sur vos contemporains,
Mes contemporains,
je vous vois bien.
Voilà.
pour autant, enfin, je vais les défendre, vos contemporains. Moi, je trouve qu'effectivement, ils s'engagent peut-être pas énormément sur ce genre de problématique. C'est peut-être difficile pour les partis politiques de renouveler leurs effectifs, sans doute. Pas partout, mais c'est peut-être... Par contre, il y a un fort engagement dans... Peut-être que si c'est pas vos préoccupations premières ou la préoccupation de vos contemporains, il y a d'autres préoccupations dans un domaine plus apolitique, dans un domaine associatif, dans un domaine humanitaire. Moi, je trouve quand même que dans cette génération, il y a énormément de gens qui s'engagent à travers des ONG, à travers des actions ponctuelles, peut-être qu'ils n'aiment pas une sorte d'embrigadement. Mais peut-être que c'est aussi nous, les anciens, et peut-être nous aussi, les représentants des médias, qui sommes coupables de mal expliquer les enjeux. C'est possible, j'en sais rien. Je pose mon constat moi-même. Mais j'ai envie de vous dire, ne considérez pas ça comme un élément négatif, parce que je pense qu'à un moment donné, on se rend compte aussi qu'on peut avoir une action à un échelon plus large, et puis que dans sa collectivité propre, on a peut-être aussi sa place à prendre. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, simplement. Enfin, je ne sais pas. Je me rends compte que c'est moi qui fais le débat alors que ce n'est pas mon rôle. Alors, le micro vient devant pour M. de Soulavie.
Oui, je prendrai rapidement la parole juste pour dire, par rapport à l'intervention de monsieur, j'enseigne... les institutions politiques dans le cadre de mon enseignement de l'histoire. Donc, c'est pour vous dire que les jeunes entre 16 et 18 ans, si on leur parle vraiment du monde dans lequel on vit, ils sont très intéressés. Et j'ai souvent des très bons retours de jeunes qui, plus tard, ont pris leur envol et me croisent dans la rue et me disent « Monsieur, eh bien, sachez que je vais aller voter. » Je vais voter. Et souvent, j'ai des bons retours de ce point de vue-là, de la part de jeunes qui s'intéressent à la vie publique parce qu'on leur a parlé de la vie publique, parce qu'on leur a parlé de la société. Et c'est ça qu'il faut faire avec les jeunes. C'est ça, c'est le message, moi, que je ferai passer. C'est il faut expliquer la complexité du monde dans lequel on vit, il faut expliquer la complexité de nos institutions, mais aussi la richesse, et la richesse aussi de notre passé. J'en profite pour juste une petite remarque par rapport à l'histoire de Neuchâtel. Il faut expliquer aux jeunes l'extraordinaire histoire de notre canton. L'histoire originelle et vraiment très, comment dire, particulière. Et c'est ça qu'on va faire. C'est comme ça, à mon avis, qu'on va pouvoir réussir à intéresser les jeunes au monde dans lequel on vit.
Merci pour ce témoignage. Et cette réaction, alors, je ne vois que la main, je ne vois pas le visage, madame, désolée.
Mesdames et messieurs, j'ai pas droit de prendre la parole dans une assemblée aussi importante, mais en tant que personne qui s'est occupée de l'histoire de Neuchâtel toute sa vie, je voulais d'abord vous dire une chose très importante. Nous ne sommes pas si fâchés avec les Chaudes-Fouesnières. Je crois qu'on est en train d'exagérer énormément ce fossé. Il ne faut pas le creuser. Moi, j'ai toujours entendu qu'on s'entendait très, très bien. Évidemment, il y a des disparités, il y a des choses. Mais maintenant, ça n'existe plus, ces disparités. Neuchâtel qui était gouverné, qui avait la... Neuchâtel à l'université, d'accord. Mais j'en appelle surtout à l'Union. Faites plutôt qu'une marche sur Neuchâtel, une grande fondue à la vue des Alpes où on serait tous ensemble. Je trouve qu'on ne doit pas exagérer les choses qui sont coupées. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé entendre Monsieur de Soulavi, parce qu'en effet, l'histoire du canton de Neuchâtel est extraordinaire. Et malheureusement, on la connaît très mal. Je recommande à tout le monde les 4 volumes qui sont parus chez Alphil, où on trouve toute l'histoire de Neuchâtel résumée par tous les grands professeurs qui sont chez nous. Et je remercie infiniment de cette réunion et des décisions que vous avez prises et de ce que nous avons entendu. Je vous remercie.
Merci, madame. C'est forcément un peu difficile d'enchaîner après. On va être obligé de dire du mal. Moi, je vous propose, s'il n'y a plus de questions, on arrive gentiment au bout de l'heure et demie qui nous a été impartie. On respecte bien les délais, non? Ah, elle retarde un peu par rapport. Ma montre retarde. C'est pas une montre neuchâteloise, sans doute. Je voudrais juste, en guide de conclusion, et là, je vous prends les 4 un peu à froid parce que je vous ai pas prévenu, si vous deviez exprimer une idée, une proposition, pour qui soit l'expression de cette cohésion cantonale ou qui permette d'améliorer ce qui doit l'être. Je rejoins quand même aussi madame qui a pris la parole tout à l'heure. On n'est pas en crise. Il y a effectivement un certain nombre de problèmes qui se posent, mais c'est pas dramatique non plus. Mais il y a un potentiel d'amélioration. Alors si vous deviez faire une proposition, ben, peut-être comme madame, faire une fondue à la vue des Alpes ou quelque chose de plus institutionnel, ce serait quoi votre priorité? Alors, Jules Aubert, il a déjà le micro en main. C'est très bien, c'est le plus jeune qui commence. Alors, on vous écoute.
Je vais peut-être finir sur une pointe d'humour, mais qui m'intéresse quand même bien. On pourrait parler effectivement de toutes les modifications structurelles, mais on en a déjà un peu parlé. Et moi, il y a un point qui m'avait interpellé dans notre histoire et dans l'histoire de nos institutions, c'est qu'on avait des préfets, notamment le préfet des montagnes. Et à mon sens, ça c'est une des institutions qui a disparu, que je regrette un peu, parce que j'ai sentiment que ça faisait un bon liant entre la population du haut, la population du bas, l'information entre le Conseil d'État et puis la population du haut et du bas. Et donc ça, je trouve qu'on pourrait réinstaurer cette idée de préfet des montagnes. Et c'est peut-être la mesure que je prendrais pour essayer de remettre un peu de liant dans tout ça.
Et ça va coûter de l'argent au canton, ça, non?
Ouais, mais il bénéficiera de ça plus largement.
Autre proposition. Alors, une proposition qui vient de Lausanne.
Non, mais c'est de l'avantage de faire des comparaisons avec les autres. Non, mais j'étais assez contre à l'époque, mais pour sortir de cette décennie calamiteuse, les Vaudois ont fait une constituante. Et contrairement à la constituante neuchâteloise, la constituante a réellement, à ma grande surprise, comme je vous dis, j'étais assez sceptique, mais je dois reconnaître la chose, cette constituante a réellement refondé le système politique vaudois. Les institutions, les modifications étaient relativement cosmétiques et en soi, elles ne changeaient rien, parce qu'en effet, les institutions, c'est uniquement d'abord des règles sur du papier, il faut les faire vivre après. Et en l'occurrence, ils les ont fait vivre. Et toute une nouvelle génération politique, à droite et à gauche, a émergé, qui a réappris à dialoguer, à recréer un dialogue gauche-droite qui s'était largement estompé durant cette décennie terrible, et qui a permis de poser les bases pour un renouveau du canton de Vaud, qui a pu se reprendre en main tout seul, sans mettre en cause le fédéralisme ou je ne sais quoi d'autre. Et de ce fait-là, je peux regretter que la constituante neuchâteloise est restée gérée en vase clos, et n'a peut-être pas osé n'avait pas osé poser les questions qui font mal, alors que les Vaudois ont osé, notamment ces problèmes financiers là, qui étaient clairement au centre du débat, de compromis en compromis. Des solutions ont été trouvées qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Et peut-être les Neuchâtelois ont peut-être loupé une occasion de renouveler un dialogue intracantonal à travers cette constituante. Et peut-être qu'il y aurait, pas en refaire une maintenant, mais trouver d'autres moyens de ce type qui puisse obliger, en quelque sorte, les gens à se réinventer dans le dialogue.
Oui.
On a voté, là-dessus. Eh bien, il y avait dans la question, acceptez-vous effectivement d'entamer une procédure de révision de la Constitution? Et puis, il y a la question subsidiaire, voulez-vous que ça soit fait par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante? Il y a 45% des votants qui ont voté pour la constituante. Malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines forces politiques, suivez mon regard, qui ont fait le choix, effectivement, d'appeler à faire la révision par le Grand Conseil.
Ouais. En l'occurrence, peut-être que ça, la constituante aurait pu élargir le jeu, peut-être.
Laurent Tissot.
Oui, j'abonde dans le sens de M. Meuvely, sauf la question du fédéralisme. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est la question de la cohésion est une question grave et très sérieuse. Il faut dialoguer, il faut se parler. Il y a des exemples historiques. On n'a pas cru au sérieux ces questions de cohésion et qui ont abouti à des catastrophes. Et ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et je pense qu'il n'y a pas de gêne helvétique. Enfin, ça se saurait. Enfin, j'ai encore jamais vu mon sang. Enfin, bref. Mais c'est une question à laquelle il faut être très sérieux. C'est une question qu'il faut approfondir. C'est une question qui mérite toute notre attention. Et il faut éviter les dérives qu'on a pu voir ailleurs et qui peuvent aussi nous atteindre. Donc, nous ne sommes pas des Sonderfall, ni Neuchâtel, ni la Suisse. Nous sommes des êtres humains. Et ce qui fait la grande victoire de la démocratie, c'était le dialogue. Et ces bisbilles régionales, on peut les parler comme ça, elles peuvent être vaincues en dialoguant, même si il y a des problèmes, et les problèmes sont partout. Et là, il n'y a pas de trajectoire spécifique de Neuchâtel qui devrait affronter des mammouths de problèmes. Non, c'est des problèmes neuchâtelois qui sont qui peuvent trouver des solutions, mais à mon yeux, cette solution n'est pas, elle ne sera pas uniquement neuchâteloise.
Mais je retiens qu'il faut entretenir le dialogue à tous les niveaux. Je suppose que Joanne Lobel-Calame ne va pas vous dire le contraire.
Non, alors là, j'ai deux idées. Bon, il y en a une, malheureusement, mais en fait, très, très heureusement, elle est déjà réalisée, c'est d'avoir un quotidien, le même pour tout le monde. Ça, c'est fait. Mais parce que comme ça, tout le monde a la même information, et puis les gens des Brenelles savent ce qui se passe à Saint-Blaise, ou ne le savent pas, là, enfin, qu'il y a une couverture. Ça avait déjà été demandé aux journées organisées par le réseau urbain de Neuchâtel en 2004. Donc, petit à petit, les choses se font.
Puis ensuite, et même dans le secteur privé, les choses prennent du temps, vous voyez.
Mais oui, mais c'est bien. Mais par contre, les personnes reviennent, donc ça va aussi. Mais une autre, enfin, là, on pourrait essayer ça une fois, faire la marche du 1er mars à l'envers. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit au Vallon des fois quand on est en mode un petit peu plaintif, ce qui n'est pas notre nature, c'est que la distance est beaucoup plus grande quand on monte que quand on descend.
Mais pas reculons,
non. Donc on pourrait une fois, je ne sais pas, ça serait peut-être un peu plus compliqué à organiser, mais pourquoi pas que ce soit Neuchâtel qui monte dans les montagnes. Voilà.
Et je suis sûr que votre proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.
Ni d'une sourde.
Les organisateurs étaient au premier rang, donc voilà, ça aide. Très bien. Alors, on va garder ces propositions concrètes ou un peu plus théoriques, mais qui doivent trouver des applications concrètes, évidemment, comme conclusion de cet échange, de ce café scientifique. Je vous ai volé 5 grosses minutes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je tiens quand même à remercier les 4 intervenants qui ont joué le jeu ici, que ce soit Jules Aubert, Joanne Lobel-Calame, Olivier Meuvely et Laurent Tissot. Merci à vous 4. Merci au comité des cafés scientifiques qui permet ce genre de rassemblement. Et merci à vous, mesdames et messieurs, parce que vous avez été très nombreux, vous avez été très attentifs, et c'est toujours très réjouissant de voir une salle aussi densément remplie pour aborder ces questions-là. Forcément que ça va ensuite rayonner dans différents cercles, ça va être faire l'objet de débats, de discussions, de réflexions, donc c'est toujours extrêmement sain. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Il y a juste encore un petit mot de conclusion sur les aspects pratiques.
Tout d'abord, vous dire que le prochain café scientifique aura lieu, donc toujours ici même, le 21 mars. Donc je vous donne déjà rendez-vous. On parlera économie, on parlera consommation, les limites du « fais tout toi-même ». Le self-scanning dans les magasins, le self-check-in, les factures papier qui sont payées par les consommateurs. Voilà, il sera question de tout cela ici même au prochain café scientifique. Vous avez sur les tables beaucoup de flyers. On a énormément d'événements à l'UNINE qui sont publics en ce mois de mars. Donc je vous invite à vous informer sur ces différents flyers et à revenir à l'université de Neuchâtel. Beaucoup d'événements publics émailleront ces prochains jours et ces prochaines semaines. Voilà, merci beaucoup et au prochain café scientifique.